Ben, bonsoir, on inaugure ce petit salon de la nouvelle réserve. C'est pas mal, hein? Alors, merci d'être venu pour cette soirée sur ce livre vraiment super intéressant. Vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, bienvenue à Vincent et à Abdallah. Parce que l'autre Abdella n'est pas pu venir aujourd'hui. Voilà. Donc on est tombé un peu voilà, sur ce livre et on s'est dit que ça irait tout à fait bien ici. Parce que d'abord la région automobile, on est sur la vallée de l'automobile quand même, et que Abdella qui n'est pas là a travaillé à Poissy toute sa vie. Et Abdallah a travaillé à Citroën. Voilà. Alors, c'est un livre important, car il y a souvent peu de récits d'engagement militant ouvrier, et notamment marocain. Dans le secteur automobile, il y a assez peu de récits, et celui-là, c'en est un quand même vraiment très bien. C'est un ouvrage à trois voix, donc Abdallah, Abdallah et Vincent, en gros. Quand on lit le livre, on est emporté dans cette histoire ouvrière de toute une vie d'engagement en fait, syndical et associatif. Alors, dès le départ du livre, parce que c'est l'introduction, c'est Vincent qui l'a écrite, il me semble, il avait déjà publié un autre livre qui est ici, qui s'appelait. En 2020, c'était ta thèse de sociologie, pour la dignité, ouvriers émigrés et conflits sociaux dans les années 80, aux presses universitaires de Lyon. Et il explique tout de suite dans le livre pourquoi il a aussi voulu entendre les voix de Abdella et Abdallah. Alors, et quand on lit le livre, on comprend vite pourquoi il dit que c'est des témoignages très rare, et moi je trouve c'est rare mais aussi indispensable, ces témoignages. Parce qu'en fait il s'agit de vie entière, d'exil déjà, en 67 pour Abdella et en 1973 pour Abdallah, qui sont venus en France pour construire des voitures dans les usines automobiles, que ce soit à Talbot-Poissy ou à Citroën-Aulnay. Et voilà. Et ce sont des usines qui sont considérées comme les plus dures, mais pas que. Parce que par rapport à Renault, il y a vraiment des grosses différences, surtout au niveau de la gestion de l'entreprise et au niveau du salariat. Alors, mais comme nous sommes un certain nombre de militants, nous savons que quand il y a exploitation, il y a forcément, à un moment ou à un autre, la révolte qui couve et qui s'exprime. Et c'est ce qu'on verra. Voilà. Alors, dans le livre, on suit Abdella et Abdallah, sans lâcher le récit, ces deux voies croisées et leur évolution dans le temps, à travers huit chapitres chronologiques. On les rencontre déjà au Maroc, ils expliquent voilà, où ils viennent, leur village, etc., jusqu'à leur retraite actuelle en France. Donc, c'est l'histoire d'une vie entière, et en passant par leur découverte. Ils découvrent le travail en usine, les horaires, le militantisme, les syndicats, dont celui du patron, la CSL, les grèves, et notamment les grandes grèves de 82-83, et les lendemains, la question du racisme, les stratégies gouvernementales et patronales, et aussi, même jusqu'à la fin, l'engagement dans le quartier d'habitation, même à la retraite. Donc, ils ne s'arrêtent jamais. peut-être pas un peu, mais en tout cas, un an même pas. Voilà, ils ne s'arrêtent jamais. Ils ont ça au cœur. Alors, ces récits sont agrémentés de nombreux passages et indispensables qui s'appellent les repères. On verra les repères qui ont été rédigés par Vincent, qui ne sont pas dans le récit d'Abdallah et Abdallah, mais qui s'incrustent bien dans les chapitres On y parle des mouvements indépendants marocains, des juifs du Maroc, des mobilisations de 65 au Maroc, de la gauche marocaine, de Mehdi Ben Barka, et puis de l'immigration marocaine en France. On y parle aussi de les élections à l'usine de Poissy, les luttes dans les foyers, l'association ATMF, dont ces deux militants sont membres quand ils sont arrivés.
Oui.
Voilà, ATMF, toi
Voilà,
surtout,
vous avez
toi.
un nom, il est au
Non, non,
PPS.
lui. Mais ils sont tous les deux au syndicat CGT. Et puis on y parle aussi des syndicats patronaux comme la CFT, ou qui est devenue CSL, de la médecine du travail. D'ailleurs, moi j'ai appris plein de choses sur la médecine du travail. Du syndicalisme, de l'immigration, voilà, des chiffres, voilà. Et jusqu'à l'aide au retour après les grèves de 82-83. Donc c'est très dense, mais ça se lit très facilement. Et en fait, ces engagements de toute une vie dans des usines qui ont marqué la lutte des classes en France sont très importants. C'est un engagement au syndicat, ici, ils sont tous les deux à la CGT. Et associatif avec l'ATMF, qui veut dire Association des travailleurs marocains en France, qui existe toujours. Mais aussi de leur vie personnelle, familiale, comment ça se passe dans leur famille quand ils étaient jeunes, et puis après, quand ils ont fondé aussi leur propre famille, les enfants, tout ça. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était de très belles vies racontées, bien que pas faciles, qui sont riches, passionnantes et surtout extrêmement utile et à faire connaître. Donc on va faire un peu un tour d'horizon de ce livre. Moi j'avais quelques questions à poser. Déjà, Vincent, déjà explique pourquoi ce livre, pourquoi il est en introduction. Est-ce que tu peux résumer un peu ton introduction?
Ouais. Alors, j'ai pas relu avant, mais juste déjà, effectivement, bon, moi, ça me fait très plaisir d'être ici. Alors, on l'a présenté dans divers endroits et sans doute les endroits où c'était le plus important, enfin, en tout cas particulier, c'était quand on allait le présenter dans le sud du Maroc au mois de mai, hein, où on avait fait effectivement un certain nombre de rencontres. Et moi, ce que j'ai compris, n'étant pas du tout, n'ayant aucun lien avec le Maroc, c'est l'importance des transferts et des vies partagées entre le sud du Maroc et la banlieue parisienne, et notamment le 92, mais bien sûr pas seulement, je pense que dans le 78, ça serait pareil, hein, et l'intérêt que, effectivement, ce livre pouvait avoir aussi pour des anciens qui sont à la retraite au Maroc, mais aussi pour leurs enfants, dont certains ont vécu en France et d'autres non. Mais voilà, on a fait quand même beaucoup de rencontres qui étaient vraiment très chouettes. Et je dis ça parce qu'on ne l'a jamais présenté dans le 78. Et je pense que c'est aussi important que, effectivement, comme tu l'as dit, dans un département qui est tellement marqué et par l'immigration et par l'automobile, qu'effectivement, il y ait ce genre d'ouvrage, que moi, ça me fait plaisir aussi d'être ici pour ça. Bon, même si je sais que le livre de Fabienne a eu beaucoup de succès, donc ça a déjà été l'occasion de parler de ces histoires-là. Mais en tout cas, je pense y a, comme tu l'as dit, assez peu d'ouvrages qui reviennent sur cette partie de l'histoire de France, on va dire. Et que effectivement, les échos qu'on a et les retours qu'on a nous font dire que voilà, c'était quelque chose d'important. Alors, le point de départ, pour préciser, ça a d'abord été effectivement une enquête sur les travailleurs immigrés dans les conflits de l'automobile, pas l'ensemble des conflits, mais dans certaines usines dans les années 80. Donc les usines du groupe PSA, donc Citroën et Talbot, donc notamment dans la petite couronne de Paris et à Poissy. Pourquoi ces usines-là? Bon, parce qu'effectivement, d'un certain point de vue, elles étaient en partie différente de Renault, notamment par rapport à l'existence du syndicat patronal CFT-CSL, mais avec quand même des points communs assez importants, notamment sur le recours massif à l'immigration. Et donc ces grèves, elles se passent au début des années 80, et moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser, je connaissais vraiment pas du tout cette histoire-là. Et j'ai compris, ou j'ai essayé de montrer qu'en l'espace de 2-3 ans, il y avait une espèce de condensation de questions politiques qui se posaient, à la fois qui touchent le monde du travail, qui touchent l'immigration, qui touchent le syndicalisme, qui touchent la gauche, puisqu'on est au début, hein, du premier septennat de Mitterrand, Et on a à la fois des conflits qui vont être extrêmement offensifs dans plein d'usines, pas seulement celles que j'ai étudiées, mais à Renault-Flins, à Billancourt, à Peugeot-Sochaux, dans d'autres usines du groupe Renault, notamment bon, sur les questions salariales, sur les questions d'organisation du travail, de conditions de travail, hein, et qui vont en part pour régulièrement gagner des choses. Et dans ces conflits-là, dans cette première phase-là, effectivement, les ouvriers immigrés sont très présents. Voilà. Et puis, très rapidement, une espèce de coup de bâton, alors qui n'est pas juste, enfin, c'est pas un retour de bâton uniquement, hein, mais ça participe quand même, des licenciements massifs, puisque effectivement, ça va être la première grande phase de restructuration de l'industrie automobile, après la grande phase de croissance des années 60-70. Et les premières victimes, en gros, de ces restructurations-là, ça va être les OS immigrés. Et contrairement peut-être à une idée préconçu, il va y avoir des batailles importantes contre ces licenciements de travailleurs immigrés, notamment à Poissy, à Citroën, etc. Bon, qui vont en grande partie échouer, mais bon, pas complètement, parce qu'effectivement, il y a quand même une résistance qui s'affirme. Ça soulève des questions extrêmement importantes sur la question de l'aide au retour, notamment, qui va être une des réponses patronales et gouvernementales à ces conflits-là. Et donc voilà, donc ça me semblait important de revenir là-dessus. Et donc, en faisant cette recherche, j'ai rencontré Abdallah et Abdella, donc qui n'ont pas exactement la même trajectoire. Hein. Abdella Freghi, qui n'est pas là ce soir, est un peu plus âgé. Il est arrivé 6 ans avant. Il est arrivé tout seul. Enfin, il n'avait pas de famille véritablement en France. C'était le premier immigré ouvrier de sa famille. Il vient de Casablanca. Bon, toute une série un peu de comme ça de distinctions. Il me semblait vraiment nécessaire de bah, au-delà de on va dire parler des ouvriers immigrés comme une espèce de catégorie qui regroupe tout le monde, de faire voir en fait bon bah, derrière cette catégorie-là il y a des vies et comme tu l'as dit Fabienne assez intense et notamment bon fait de difficultés au travail comme ont connu la plupart des ouvriers en France, de racisme comme l'ont connu la plupart des ouvriers immigrés en France, et en même temps de résistance, de lutte et d'engagement. Et pour le coup, effectivement, des engagements qui ne sont pas ponctuels, le temps d'une grève, le temps d'une mobilisation, mais qui vont s'étirer hein, sur l'ensemble et d'une carrière professionnelle et d'une vie, à la fois à travers le syndicalisme, la CGT, à travers la politique partisane, on va dire, pour Abdella, puisqu'il était membre du PPS, qui était le Parti communiste marocain, qui avait une section dans l'immigration. Il en sera le candidat aux élections législatives marocaines en 1984. Et puis, dans le monde associatif, avec la TMF, je te laisse la parole juste après, mais qui aussi, moi, m'intéresse dans le sens où, déjà, elle dit des choses sur les politisations des ouvriers, enfin des immigrés marocains à l'époque, pas seulement ouvriers, hein, les étudiants aussi, mais c'est un mouvement qui en fait est à l'image de beaucoup de mouvements de l'immigration de l'époque et où la question du travail et donc de la place des travailleurs est centrale. C'est-à-dire, toutes les associations quasiment à l'époque, c'est travailleurs marocains, travailleurs tunisiens, travailleurs turcs, etc. Voilà. Aujourd'hui, très peu d'organisations de l'immigration évoquent dans leur nom hein, la question du travail, alors qu'à l'époque c'est vraiment central, et donc ça m'intéressait d'autant plus de voilà, raconter aussi ce que c'est le militant, enfin un militant de la TMF. Voilà.
Alors, Abdallah, déjà, comment, tu le décris très bien, comment tu es venu en France, en fait, comment ça s'est passé?
Alors, bonsoir, très heureux d'être parmi vous et d'apporter quelques explications. Alors, moi, je suis né à 30 km d'Agadir, à Chtouka Aït-Baha, et mon grand-père, il était installé à Corrigla comme boucher. Et son fils, le deuxième, c'est-à-dire mon oncle, était employé à l'OCP, l'Office chérifien du Fossoyeur. Et je suis resté avec ma maman et mon frère. Et après, mon grand-père a décidé, avec mon oncle, parce que mon père se trouvait déjà en France, en ce temps-là, j'avais 3-4 ans, de m'emmener à Corrigla. Je suis arrivé à Corrigla C'est là que j'étais à l'école jusqu'à terminale. Donc, l'année 72 était une année blanche où il n'y avait pas d'examen, où il y avait beaucoup de grèves au Maroc. Donc, on n'a pas pu passer nos examens. Et c'est là que j'ai écrit à mon père en lui disant, moi, le Maroc, c'est fini, il faut que je monte voir et vivre en France. Et on avait la France, les droits de l'homme, tout ça. Ça poussait que on disait, bon, on va vivre bien, et dès qu'on arrive, on aura tout ce qu'il faut. Et mon papa, quand il arrive au mois d'août, il venait tous les mois d'août. Moi, je ne l'ai pas connu sur 18 ans, je ne connais que les mois d'août. Donc, il me disait toujours, non, la France, c'est ça, non, on ne croit pas, les droits de l'homme, la CGT, tout ça. Tu vas voir, ça va être dur. Donc, il m'a envoyé un contrat de travail. Donc, je me rappelle bien, c'était au mois d'août, donc il était là. Je l'ai laissé à Agadir, je suis monté à Casablanca pour les examens à Ain Bourja. Ain Bourja, c'est un peu l'OFI. Voilà,
L'office
c'est
d'immigration.
voilà, l'office d'immigration qui faisait des examens pour les travailleurs qui arrivaient sur la France et aussi sur d'autres pays. Donc voilà, je suis resté une petite semaine à Casablanca, des amis. J'ai passé mon examen, je sais que c'était positif, mais je suis resté une semaine à me balader, aller à la plage, tout ça. Mon père qui me téléphonait d'Agadir en disant, mais il faut y aller parce que le départ va être le vendredi. Et le vendredi, on nous emmène à manger, on nous emmène. Et on nous met une cinquantaine de personnes dans le train. Et le train jusqu'à Austerlitz. Donc je suis arrivé le 6, le 4 septembre 73. Donc vendredi, samedi, dimanche. Et lundi matin, on était à Gennevilliers. Voilà, passer la journée à me reposer. Le lendemain, donc ça c'est le mardi, le mercredi repos et le jeudi, première fois dans l'usine. J'ai jamais vu d'usine où mon papa, donc il m'a dit on va y aller à Javel pour la visite médicale et je l'ai accompagné. Et là-bas, la dame qui recevait les travailleurs disait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle et écrit le français? Donc, les copains du village, ils disent, lui. Donc, il m'a mis à côté. Moi, j'ai continué à travailler avec elle, à remplir les imprimés. En plus, il me dit, vous les connaissez, monsieur? J'ai dit, oui, ils sont de mon village. Monsieur Vlan, ainsi de suite. Donc, j'ai travaillé toute la journée avec elle. Et je me rappelle qu'il m'a payé la cantine pour un mois. En me disant, vous choisissez l'usine que vous voulez. Moi, je ne connaissais pas les usines. Donc, mon papa m'a dit, va à Saint-Ouen. C'est un peu plus léger le travail. Mais arrivé à Saint-Ouen, c'est 95 décibels et c'est 1200 personnes. Et mon étonnement, j'étais fatigué quand je suis revenu vers papa. Je lui ai dit, c'est très très difficile. Il m'a dit en berbère, il m'a dit, on n'a rien mis qui va brûler dans le tagine. Tu venais en train, moi je te paye le billet en avion, tu retournes si tu ne veux pas. Mais il m'a dit, il y a une chose, c'est que quand vous êtes à l'école, vous voulez travailler. Mais quand vous travaillez, vous voulez revenir à l'école. Alors moi, je lui dis non, je reste, je vais travailler. Et c'est là que ça a démarré, donc commencer à travailler à 5 ans.
Et ton père, il faut quand même préciser qu'il était quand même passé par les mines du
Voilà.
Nord, puis par les usines Citroën
Il a passé
de l'île de
2 ans.
France, quoi.
Il a passé 2 ans à Salomine. Donc ça ne lui a pas plu. Bon, c'est quelqu'un qui vit à la campagne, qui vit dans les montagnes, qui a ses chèvres, qui a ses moutons, tout. 2 ans très très difficiles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a descendu à Gennevilliers, où il y a une grande population marocaine. Voilà, en ce temps-là, dans 60, 56, 57, ils l'ont embauché facilement. Il s'est retrouvé à la fonderie de Clichy. Alors, c'est dire aussi ça. Après, ils l'ont muté à Porte de Paris, à Saint-Denis. Donc, il a continué jusqu'à 77.
Et est-ce que quand tu es rentré dans l'usine, est-ce que tu t'es syndiqué tout de suite ou pas tout de
Ah, pas
suite?
du tout.
Comment ça s'est
Là,
passé?
c'est difficile. Alors, quand je suis rentré, la première chose, c'est qu'il m'a comment on l'appelle déjà, interprète. C'est quelqu'un de âgé. Et mon étonnement, quand je l'ai vu, qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur ici? Il a plus de 60 ans. Il a peut-être 65, 68 ans. Il me dit, ton nom, ton prénom, racine carrée de 2. Je lui dis, un véhicule 414. Moi, je me rappelle plus, ça fait un an que j'ai quitté l'école. Ah, tu sais que c'est un 414. Ça va, très bien. Alors, il me dit, ton papa, c'est un bon travailleur. Alors, on va te trouver une bonne place. Ils m'ont mis manœuvre. C'est la bonne place. J'accroche et je décroche et le pont qui prend les bobines couchées. Et à Saint-Ouen, il n'y a que la découpe. On fait de la découpe, de la tôle et on fait des pièces pour toutes les usines de France et ailleurs. Donc voilà, j'ai fait 4-5 mois là-bas et après, alors ça c'est l'essai. Est-ce que tu es nerveux? Est-ce que tu parles beaucoup? Est-ce que tu as des copains? Bon, j'ai continué comme ça. Après, il m'a dit, est-ce que tu veux passer le permis de cariste? J'ai passé le permis de cariste, resté un certain temps. Et après, donc ça c'est 73, 74, 75. C'est là que j'ai commencé à avoir mes repères. Et eux, ils vont voir mon père à chaque fois. Bon, ça va pour l'instant, il est tranquille, mais il a peur, oh là là là. Le jour où il y a une grève à Porte de Paris, moi j'étais cariste en ce temps-là. J'étais avec des copains, alors là c'est la catastrophe. Le papa il n'était pas content, ouais, qu'est-ce que c'est. Je dis, moi j'ai rien fait, j'étais de faire une demande d'augmentation comme tous les caristes, c'est tout. Donc là c'est, on voit que la pression, c'est pas que sur moi, mais sur la famille aussi. C'est pour cela que chez Citroën, il y avait deux générations, trois générations, le père, le fils, le petit-fils qui travaille. Donc le père, lui, il a autorité sur la famille. Donc on avait 5-6 familles composées de 4-5 personnes. C'est là, c'est les éléments de la CSL, de la CFT qui sont là à rapporter, à être partout dans les ateliers. Là, j'ai continué, après j'étais magasinier. Je suis resté longtemps magasinier pour finir fin carrière comme responsable logistique. Mais là, c'est parce que j'ai traversé quand même beaucoup, beaucoup de militantisme avec la CGT. Et j'ai été à la CGT, à la Commission nationale de l'immigration, Commission départementale des Seine-Saint-Denis. J'étais au CRIP, c'était un conseil dirigé par le préfet de la région. On avait une réunion une fois par mois. C'est là qu'ils m'ont laissé en paix. Mais c'était tout le temps le suivi, qu'est-ce que ça fait. Dès qu'ils ont su que je suis membre dans ce conseil, là, ils m'ont laissé en paix et j'étais tranquille. Et voilà.
Et le début de la syndicalisation alors.
Ah, le début de la syndicalisation, c'est vers 78-79. Adhérent, mais adhérent secret, personne ne le sait. Les copains se voient à l'extérieur. Et après 80, c'est là qu'on a lancé. C'est là que ça a été lancé, 81, 82. Parce que au début, la CGT n'arrivait pas à remplir la liste des candidats. Là, c'était avant les grèves 82, c'était beaucoup, beaucoup de candidats. Donc, c'est là que c'est lancé. Et moi, je ne suis pas passé à la CGT directement par les élections, c'est qu'il y avait un représentant de la CGT au CE, à Saint-Ouen, ils l'ont licencié après 81, et c'est là que la CGT m'a désigné comme représentant syndical au CE. Ah, le CE, je ne savais pas tellement tout, mais avec les formations et tout ça, bon, je suis resté longtemps représentant syndical au CE. À gérer aussi des activités avec la CSL le majoritaire et la CGT avec quelques membres. Et on a continué ce travail jusqu'à ce que le syndicat CFT qui devenait SCA avec la mort de le maître
à CSL Reims. D'abord.
Oui. CFT, CSL, SCA. Donc voilà. Ce que je peux dire, c'est que moi, je ne regrette pas tout ce que j'ai fait à l'intérieur de Citroën. Ça m'a donné beaucoup de courage d'être là. Et eux, ils voulaient m'isoler. Ils me mettaient deux jours. Là. Quand j'étais cariste, ils me mettaient aux chutes. La découpe de la tôle, il faut qu'ils la mettent dans un coin. Moi, je la ramasse avec le filmique. Je la jette dans un wagon. Et le wagon va à Charleville, à la fonderie. Donc, c'est un coin qui... Quand il fait 2 degrés à l'intérieur, il fait moins 8, moins 10 là-bas. Donc personne ne vient voir à l'hiver, tout ça. Mais j'ai quand même, avec la CGT, quelques, j'avais 30-40 heures de délégation où je laissais le travail et je faisais mes revendications, mes ramassais, je ramassais les revendications, j'allais une discussion, j'allais. Et c'est là que j'ai tenu les coups. C'est-à-dire que je suis resté sans augmentation, sans promotion, 18 ans. Il a fallu attendre 1999 où les camarades sociaux ont attaqué les patronats pour gagner. C'est là qu'ils ont été. Ils ont eu peur d'être condamnés au président de Bobigny. Donc on a fait une transition avec tous les délégués CGT, mais ils ont rajouté les délégués CFT, CSL, FO, CFTC. Même ceux qui n'ont pas été opprimés, stagnés dans leur temps, ils ont donné. Mais nous, on a eu quand même une belle somme. Les autres ont eu, en ce temps-là, c'était le franc. Moi, j'ai eu 100 000 francs. Des copains ont eu jusqu'à 120 000, 140 000. Et la CSL, ils leur ont donné quelque chose de symbolique, comme 10 000, 3 000, 10 000, 20 000. Pour dire que nous, on traite tout le monde pareil, CSL comme CGT, mais en réalité, les plus opprimés, c'est la CGT et quelques copains de la CFDT.
Et comment tu as vécu les grèves de 82, 83?
Alors, les grèves de 82, moi, à partir de 79-80, on savait que ça allait éclater chez Citroën. On était sûr que, pourquoi? Parce que déjà, en 81, il y a les radios libres. Donc, il y avait Radio Beurre, Radio Alger, Radio... Donc, toutes ces radios-là, il y avait beaucoup de social, beaucoup d'émissions. Moi, je m'occupais à Radio G, le samedi, d'une émission sportive, une émission sociale et des dédicaces. Donc, tous les samedis, j'étais là-bas.
Toi, tu es très sportif. Hein.
J'ai joué au foot avec l'Olympique de Kroliga, cadet et junior. Et bon, quand je suis arrivé chez Citroën, la première chose que j'ai vue, j'ai vu une photo d'une équipe de foot. J'ai dit, qui c'est le responsable? Un copain, il me dit, c'est votre contremaître qui est le responsable. Je vais le voir, je lui ai dit, monsieur, je vais jouer. Ah bon? Bon, dimanche, je passe te prendre. Théo, je suis au foyer. Il arrive, il me prend en voiture. On va derrière à Vicennes, à Bobigny. Il y a des terrains là-bas loués par Citroën. Et on fait un championnat des usines, qui étaient une vingtaine d'usines sur la région parisienne. Et moi, je jouais avec Saint-Point. Premier jour, je marque 2 buts. J'étais un bon milieu de terrain qui cavalait beaucoup. Donc le gars, il me dit, c'est là qu'il m'a dit, bon, tu vas aller au magasin. Tu t'occupes du magasin, tu te reposes. Et j'avais le France Football tous les matins, tous les lundis. C'était les lundis. Donc c'est là, c'est des anecdotes qui ont fait que, voilà, on a continué. Mais ce qui les a embêtés beaucoup, c'est la radio. Parce qu'on parlait berbère, on parlait arabe, on parlait français aussi. Et ce qui les a embêtés le plus, c'est que je connais la plupart des gens de cette usine. Et on leur a dit, il ne faut jamais serrer la main à Abdallah. Et quand on est dehors, ils me payent les cafés, les gars, viens, on discute. Quand on rentre à l'intérieur, les vies ne connues. Alors chacun, et moi, je. Voilà. Ah, mais ça n'empêche qu'il y a aussi des copains qui nous ont aidés beaucoup, des copains de LCR, de l'ouvrière, Parti communiste. Il y avait 2 copains, 2 frères qui étaient conseillers municipaux de la ville de Saint-Ouen, qui ont apporté beaucoup. Donc voilà. Il n'y avait pas beaucoup, beaucoup d'immigrés à la CGT en ce temps-là. C'est après les grèves que beaucoup sont rentrés et ont adhéré à la CGT.
Et comment vous avez senti monter? Alors, tu disais, on sentait un peu monter les choses.
Oui, voilà, on sentait. Déjà, la première, c'est que les candidats, il y en a beaucoup.
Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que 82, quand même, c'est oui. L'élection de François Mitterrand. Oui. Il y a une chape de plomb qui
voilà, saute. Dès l'élection de Mitterrand, les gens, ils disaient, ils se posaient la question, est-ce qu'on peut, on va envoyer encore l'argent à nos enfants? Est-ce qu'on peut transférer l'argent au Maroc? Donc la question, et nous on disait, mais bien sûr qu'on peut envoyer l'argent, bien sûr qu'on peut économiser et après partir. Donc c'était cette peur-là. Et après, qu'est-ce qui a donné beaucoup d'espoir aux immigrés travailleurs et aux immigrés aussi son papier, c'est quand il a régularisé son 30 000. À la régularisation, les gens qui disaient, ah ben oui, on disait que les communistes, que les socialistes, ils vont au fond dehors. Maintenant, ils nous accordent le papier. Et on commence à travailler. Et après, viennent les grèves, soutenues par la gauche, par les syndicats, par les associations de gauche. Donc là, les anciens ont compris que il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de dignité sans lutte. Et c'est là qu'ils se sont mis en lutte. Je donne juste un exemple. À Saint-Ouen, il y avait 50 avant que je sois adhérent. Il y avait 50 adhérents. C'était le service des professionnels.
Sur combien de salariés?
Sur 1200. 50. Après les grèves, on monte à 350. On y sont montés à 3000 adhérents. Après les grèves. Quand on allait parce qu'on allait tous les jours à Aulnay, 3000 personnes au parking, donc c'est 3000 adhérents. Donc, c'était un mouvement très, 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 très grand. Et voilà. Et là, on a compris la lutte entre le patronat, quand on fait une manifestation avec 80 000, eux, ils font une semaine après ou 15 jours, une autre. Je ne sais pas si tu te rappelles, Vincent, quand ils ont fait venir des gens de toute la France, blouse blanche, costard, et voilà. Et ils faisaient c'était leur slogan, c'était liberté de travailler, liberté de travailler. On ne parlait pas d'augmentation de salaire, des conditions de travail, tout ce qui suit.
C'était quand même violent à Poissy, on se souvient que c'était quand même violent avec la CSL. Entre la CGT,
moi j'étais ce jour-là où ils ont dit les Arabes au four, les Arabes à la Seine, où il y avait un qui était blessé à l'œil. J'étais là, à porter le soutien aux copains de Poissy. On est arrivé deux personnes de la TMF et ils nous ont coincés dans un coin et il y avait vraiment des racistes qui étaient liés. On avait peur, moi j'avais peur ce jour-là. Les autres jours, il y avait du monde, ça discutait, on sortait, on rentrait, bâtiment 5, bâtiment 3, donc voilà. Mais ce jour-là, c'était délicat. Et aussi une bagarre à Levallois. Moi, je me rappelle à Levallois, on allait dormir à l'usine pour que les ouvriers ne rentrent pas. Et en ce temps-là, il y avait beaucoup de copains de Renault qui venaient nous donner un coup de main. Il y avait même Philippe
Martinez
qui venait nous donner un coup de main. Ils nous ont, il y avait une descente et c'est la porte principale de Levallois. On se reposait, ils nous ont balancé de l'acide pour nous faire éloigner. Et ils avaient des voitures qu'ils prenaient les ouvriers, ils tournaient l'usine et les faisaient rentrer. Et avec Driss, un gars de la CGT-CVDT à Poissy, lui, il me dit, Abdallah, viens, on va voir, il y a une camionnette qui prend les cas ici. Je dis, laisse Driss, on s'en fout, il rentre. Il me dit, non, moi je ne savais pas qu'il avait un couteau comme ça. On dit, vous voulez travailler? Oui, monsieur, montez. Le gars, il conduit, Driss, il sort le couteau. Je dis, mais arrête! Il me dit, je lui fais peur, ne t'en fais pas, je ne vais pas les congérer. Il dit, alors, vous voulez casser notre grève? Non, monsieur. Allez, rentre chez toi, qui lui dit Driss. Bon, il y avait des anecdotes, il y avait des trucs. Mais on était contre cette violence parce que eux, ils étaient violents. Mon chef d'équipe me balançait de la flotte. Ils étaient à l'intérieur. Et nous, on était sur le côté Garibaldi, sur la rue. Ils nous balançaient les boulons et la flotte avec un lance-incendie. C'était des moments durs. Mais bon, moi j'ai appris beaucoup de choses. L'organisation d'une grève, comment distribuer tout ce qu'on a ramassé avec les mairies de gauche, comme Anières. Ils n'avaient rien de Anières, mais de Gennevilliers. Il y avait la bouffe, il y avait les boissons, il y avait tout. Saint-Ouen, Madame Paulette Fosse qui était maire, il a apporté tout ce qu'il faut. Donc c'était quand même quelque chose entre Français immigrés et la population, on a appris des choses.
Et la reprise du travail, c'était un peu...
Alors la reprise du travail, ils ne voulaient pas nous laisser rentrer. Et on a dit, il y avait un chef du personnel qui était, moi c'était sa bête noire et lui c'était ma bête noire et on était comme le chat et la souris, bagarre tout le temps, tout le temps. Ce jour-là, un des copains m'a dit, on rentre en criant victoire et on va. Alors là, il y a le portail, il y a la petite porte. Ils nous ont pas laissé d'ouvrir le portail. On a dit, nous on rentre pas par la petite porte, on va pas rentrer un par un. Il faut qu'on rentre en groupe. Et on avait un camion bleu, c'était à la CGT, et moi je pousse, lui il était derrière, il m'a vu, il a dit, oui, c'est un tel là, alors les gars, ne le laissez pas rentrer, je pousse, il dit, aïe, il m'a cassé le bras, je tombe. Il a dit, non, il a fait encore du cinéma, non, c'est. J'ouvre la porte, je vais vers les portails, on ouvre les portails, je monte sur le camion, le micro à la main, victoire, victoire, et on va sur la piste, une grande piste. Et on revient sur la piste. Alors, eux, ils se sont écartés les cadres. Mais c'était une victoire où, le lendemain du travail, ils ne savaient plus quoi faire, les chefs. Ils étaient perdus. Et nous, comme on avait fait des délégués de ligne, des délégués de production, des délégués, ils n'étaient pas délégués. Mais on les a nommés pour que. Et on se retrouvait plusieurs sur toutes les unes. Et les chefs se sont calmés, on ne les voyait plus. Voilà, c'était quelque chose. Mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'au bout d'un certain temps, de 350, on est tombé petit à petit. Et les Français qui étaient à l'outillage, quand nous on est arrivé à 350, ils ont dit que c'est le syndicat des Arabes. Nous, on va se retirer. Mais il y en a qui ont continué avec nous. Ils se sont resyndiqués après. Donc, quelques mois après, ils se sont retrouvés. Et on est revenu à une centaine de syndiqués. Ah, parce qu'il y avait
En
il y avait
fait,
aussi le licenciement 82.
Oui, licenciement.
Ouais, 84. Après 82.
Et la CSL, elle s'est transformée après.
Bah, la mort de le maître à Reims leur a apporté beaucoup, beaucoup de mal parce que tuer quelqu'un au piquet de grève avec une carabine, voilà. Donc, ils s'étaient perdus, ils ne savaient plus quoi faire. Il y a eu l'RPR qui leur donnait un coup de main, qui commençait ils ont installé un bureau derrière Garibaldi, vers la banque. Donc, tous les CSL, les copains de patron vont là-bas, reviennent. Nous, on était quand même une bonne équipe pour l'affichage, pour la distribution, on était bien organisés. Et on sait que c'est après 82 qu'on a eu le local syndical, on a eu un budget de fonctionnement, on a eu du matériel, on a eu des imprimantes. Donc là, ça a facilité la tâche. Et aussi, il ne faut pas oublier ce qu'on avait comme. Comment dire? On n'était pas tout à fait d'accord avec l'union locale CGT, parce que parmi nous, il y avait des gars, des copains LCR, des copains de lutte ouvrière. Nous, les immigrés, on était là, il y en a qui ne comprennent pas. Donc, le jour où ils ont appelé le gars de lutte ouvrière en disant, oui, tu as mis une affiche pour celui d'Arnoche, nous, c'est pas. Nous, on s'est mis à 15 personnes marocains, algériens, tunisiens. On a dit, celui-là, c'est un bon délégué, vous n'avez rien à lui faire, laissez-le tranquille. Il est élu, il est secrétaire de la CGT, donc il restera. Là, ils ont un peu ils ont lâché l'affaire, ils l'ont laissé, et on a continué jusqu'à ce qu'il soit parti à la retraite. Voilà.
Et après tout
Bah,
ça,
après, moi
parlez-nous un peu de la TMF.
voilà, c'est après, mais c'est aussi avant, en fait, parce
Avant.
que
Avant,
finalement, juste
moi,
un truc, parce
ma
que,
première.
non, mais juste pour faire le lien juste avec Abdellah qui est pas là, mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, dans ces engagements-là, il y a l'usine, mais il y a ce qui se passe en dehors de l'usine, quoi. Et c'est aussi, sont aussi importants, en tout cas, pour expliquer les modes d'engagement, les
Ma
découvertes, quoi.
première lutte, c'est Sonacotra. Moi, quand je suis arrivé, il n'y avait pas le foyer. Et on était, mon papa habitait dans un taudis avec 300 personnes, deux toilettes. J'ai pleuré le jour où je suis rentré. Je dis, papa, nous encore une
Ah,
petite,
raconte
on est
ça.
trois, on a ce qu'il faut. Corrèbes-Caz, c'est un peu la petite France, les Français d'un côté, les Marocains de l'autre. On a vu tout. Moi, j'ai vu Alain Barrière à Corrèbes-Caz, j'ai vu, comment il s'appelle,
Charles Aznavour.
Charles Aznavour. Le CE de l'OCP faisait venir des grands chanteurs et faisait venir. Et on a vu tous les sports. J'ai vu tous les sports, le rugby, le basket, le karting, tous les piscines, deux piscines. Donc c'était pour moi, ça c'est bien, mais en France ça va être mieux. Et je me retrouve dans un taudis. Je dis, mais papa, tu es là. Il me dit, depuis 10 ans que j'habite là. Après, donc, ça c'est 73, 74. 75, ils ont démoli, ils ont construit un foyer. J'ai habité avec papa. Lui, il était au bâtiment A, moi j'étais au bâtiment B. Et donc, ça, et il y avait les grèves Chausson.
Comme ça, ils pouvaient te surveiller.
Voilà. Chausson, les grèves de Chausson, c'était aussi des grèves dures en 75. On a participé. Il y avait beaucoup de Marocains et beaucoup d'exilés politiques qui sont arrivés. Ils sont venus d'un peu partout. C'est là que j'ai commencé à connaître Hilal Hamam. Les militants d'Hilal Hamam sont arrivés avec 23 mars, avec toutes les...
Hilal Hamam, c'est un groupe d'extrême gauche marocain.
Voilà, de Selfati. Selfati qui a été 18 ans en prison à Netra, et avec des amis, ses amis qui l'ont connu. Donc voilà, eux, ils se sont installés à Gennevilliers parce qu'il y a beaucoup de Marocains, et en même temps, il y a beaucoup d'ouvriers. Donc voilà, et ça a commencé. Il y a l'AMF qui a été créée avant, les années 60, et il y a un malentendu entre Hilal Hamam et AMF qui est de, je ne sais pas, en ce temps-là, était avec les socialistes, ou il est avec Talleyrassi plus tard, c'est ça, non?
Le 23 mars, je crois.
23 mars, voilà. 23 mars, c'est 65, oui, tu as raison. Donc voilà, donc politiquement, ils ne sont pas d'accord, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous, on va créer la TMF.
Il faut dire sur quoi ils n'étaient pas d'accord.
Ouais. Ah bah oui, ils n'étaient pas d'accord sur le Sahara.
Ah bah oui.
Voilà. Une partie était pour la marocanité du Sahara, une autre partie était pour l'autodétermination et qui, eux, ils voulaient faire la révolution et ils voulaient aller plus loin. Mais bon, avec les ouvriers qui étaient à Chausson, Citroën, Renault, pas beaucoup, mais les environs, Câble de Lyon, Delachaux, Thompson, toutes ces usines-là, on distribuait des tracts, on allait voir, on a discuté avec les gens. Donc, de 77 à 82, on n'avait pas le droit encore, on n'avait pas le droit avant 82, d'avoir, de créer une association seuls immigrés. Il faut qu'il y ait des Français avec. Donc, 82. Mais on a travaillé beaucoup avec, moi j'ai donné des cours d'arabe dans des écoles, on avait 11 classes sur la ville de Gennevilliers, et on avait 350 gamins. Donc, c'était tout le mercredi, le samedi et le dimanche. Donc c'était bien organisé par des étudiants, des ouvriers, et on travaillait bien. Comment dire, voilà, la TMF, on a dit on va réunir tous les délégués, et il y avait des délégués, et on était 150 pour la création de la TMF. On l'a créée dans une école, une ancienne école, qui devient le siège de la TMF, qui est maintenant détruite, qui a un espace social, culturel, un emplacement. Ça a créé une vingtaine de sections. Strasbourg, Argenteuil, Aix-en-Provence, Dijon, Nancy, Saint-Avold, plein. Ce qui m'a donné, moi, la chance de voyager et de connaître un peu la France. Et aussi, il y a les mineurs qui se sont organisés en 86, 88, et nous avons monté tous les... presque tout le week-end pour leur donner un coup de main, et on militait avec eux aussi pour la fermeture des ouvrières. Les mines sont fermées, les ouvriers, les mineurs, on leur demande de rentrer au Maroc, ils n'ont pas voulu, ça a créé un mouvement très très fort où la TMF a joué beaucoup avec la CGT et les syndicats. Donc voilà, le Nord, je le connais comme je connais Corrèbes-Caz. Et ça me rappelle Corrèbes-Caz parce qu'il y a des montagnes de charbon et là-bas il y a des montagnes de phosphate. Donc c'était un peu. Il y a les pavillons aussi, les pavillons Corrèbes-Caz, pareil que à Duché, à Douai, à Salomine, toutes les villes. Ça s'est créé le mois de janvier 82. Après, les sections sont arrivées après. Et après, on est parti jusqu'au 7e congrès, on s'est dit, parce que notre président, c'est un Algérien. Et d'autres Tunisiens sont arrivés. Donc on s'est dit, on ne peut pas rester Marocain. Il faut qu'on ouvre à tout le monde. Et c'est devenu un Maghrébin. Voilà. Donc, ce qui m'a marqué aussi de la création de l'ATMF, c'est les droits de l'homme, quand on a commencé à parler de Tasma Mart. Donc, ça, c'est les premières photos et les premières expositions, on les a vues à l'ATMF. Et après, ça s'est dispatché partout, sur les sites chiants et sur tout ça. Donc, Tasma Mart, pour nous, c'est.
Tu peux préciser
Tasma Mart, ce sont les prisonniers qui ont fait les coups d'État 71-72 et qui se sont retrouvés sans jugement. À être oublié à Tasma Mart dans le Sahara, vers le Sahara, oublié là-bas. Ils étaient, je crois, 40 à 50. Il y a la moitié qui sont morts et quelques survivants sont libérés vers l'amnistie d'Hassan II. Je crois que c'est 99. 99, il y a l'amnistie. Ils sont... Donc, Selfati, lui, il était à Konitra. Donc, on l'a reçu. J'ai invité, on l'a reçu à Clichy, donc voilà. Maintenant, tous les exilés politiques, bon, ont leur famille, vivent en famille, il y en a qui sont rentrés, et la TMF continue les activités, dont les droits de l'homme, l'alphabétisation, le soutien scolaire, et ainsi de suite.
Merci. Bon. Je ne sais pas, est-ce que. On va peut-être passer aux questions, si vous voulez. Oui. Poser des questions. Et...
J'ai une question sur la marche pour l'égalité et contre le racisme. Est-ce que ça a eu un écho auprès de la TMF et ou dans les usines? Parce que comme c'est.
On les a reçus. On a marché avec eux en région parisienne. Oui. Moi, j'ai été à Montparnasse. Mais tout ce qu'on a gagné, c'est la carte séjour, disons. Mmh. Pas plus. Mmh. Ça reste toujours la même chose. Le racisme a doublé, c'est pas plus. L'emploi, je crois qu'il n'y en a pas pour tout le monde. C'est en compte que maintenant le patronat, voilà, on était sur la ligne où il y a 10 presses, on était 12. Un qui donnait des pièces, et ainsi de suite, jusqu'à celui qui les met dans la. Dans la caisse, pour les envoyer à Rennes, à partout. On s'est retrouvé après 82, 84, 86, à 3, 2, celui qui met la pièce et celui qui la ramasse pour la mettre. Ils ont mis les robots, les bras, et ainsi de suite, et ça a baissé. Et en plus, ils nous poussaient, nous, qui ne travaillons pas sur les presses, à faire ce boulot, mais fais l'autre. Moi, je refaisais tout, faisais mon travail, et pour m'embêter, ils m'ont envoyé travailler en VSD, vendredi, samedi, dimanche, la nuit, parce que je ne vois personne. Et on est à 30 personnes dans l'usine, quelques machines qui tournent. Moi, j'étais au logistique, c'est moi qui sortais et rentrais, réintégrais les bobines. Donc, ça fait que je suis resté une dizaine d'années à faire ce travail. Mais je venais la semaine à l'usine pour faire mon travail syndical.
Je peux rebondir juste sur cette question. Ouais, est-ce que ça, c'est une question moi qui me semble intéressante parce que, enfin, d'un point de vue déjà des dates, c'est que donc là, la marche, elle arrive à Paris le 3 décembre et la grève contre les licenciements à Poissy, qui va être la première grosse grève où les travailleurs immigrés vont être aussi donc victimes de 2000, presque 2000 licenciements. Commence le 7 décembre, donc 4 jours après. C'est vraiment dans la même temporalité. Il y a des marcheurs qui sont, allés à l'entrée des usines avant d'arriver à Paris. Il y a quelques équipes syndicales qui font un peu l'accueil. Mais bon, globalement, cette question-là du rapport entre la génération des marcheurs et la génération des ouvriers, ce n'est pas qu'une question de génération, hein, c'est une question de ce que la France, on va dire, entend, on va dire, ce qui se passe sur la question des immigrés, voilà, ça va créer un gap. C'est-à-dire qu'effectivement, après le 3 décembre, globalement, les enfants d'immigrés ou les beurs, comme ils vont être appelés par pas mal de médias, vont être assez célébrés, au moins dans la gauche, quoi, voilà, de façon relativement consensuelle. Et par contre, effectivement, les ouvriers vont être assez peu visibles, quoi, hein, et surtout vont recevoir très très peu de soutien. Alors, il y a quand même des initiatives, hein, qui ont été faites, notamment donc, une des scènes dont parlait Abdallah tout à l'heure, de la fin de la grève de Poissy en début janvier 84, qui est donc très violente avec une partie de gens d'extrême droite qui est là, etc. Et un groupe de marcheurs parisiens, de la région parisienne, vient effectivement non seulement bon, apporter son soutien, mais essayer de faire une initiative commune avec les ouvriers immigrés de Poissy qui sont en train de se faire licencier. Bon, ça n'aura pas de suite, mais symboliquement, c'est vrai que c'est important. Il y a une manif commune donc en janvier, donc de ce groupe de marcheurs et d'une partie des ouvriers immigrés, mais sans la CGT de l'usine. Bon, avec beaucoup d'ambiguïté dans cette manifestation-là, parce qu'il y a la question de l'aide au retour qui commence à arriver, etc. Donc, l'idée d'une libération de la parole des travailleurs immigrés sur cette question-là. Mais voilà. Moi, je pense qu'il y a toujours beaucoup à essayer de comprendre ce qui s'est passé là, dans à la fois, effectivement, une volonté de transmettre une forme de quasiment de flambeau entre des générations, ou de se retrouver, en tout cas, entre générations issues de l'immigration. Et en même temps, voilà, un traitement politique et médiatique qui est très différent concernant les ouvriers, concernant les jeunes qui, pour certains par ailleurs, pouvaient parfois avoir bossé en usine. Hein. Ce n'était pas forcément que des jeunes étudiants ou quoi, hein, mais voilà.
Il y en a qui veulent dire quelque chose, poser des questions. Là, c'est...
Il y a aussi l'expérience des radios.
Les radios
libres qui a apporté beaucoup et que, bon, nous à Gennevilliers, la radio a duré 6 ans, 5-6 ans. C'était une radio libre,
créée par la mairie.
Voilà, c'est la mairie qui l'a créée, mais on était 200 animateurs sur la semaine. Et là, on avait Radio G, la voix de l'immigration. Et on faisait des émissions le samedi et dimanche. Donc c'était quelque chose. Et on avait dit, le samedi c'est social et le dimanche c'est politique. Donc moi j'ai connu cette radio, toutes les personnalités opposantes à Hassan II. J'ai connu Abdel Barouri, l'abbé tout le temps, Saïd Aziz Mbé. C'est-à-dire que celui qui anime le dimanche de 20h à 22h, arriver toujours à avoir quelqu'un qui apporte quelque chose que on n'arrive pas à l'entendre avec les immigrés. Parce qu'ils ont tellement peur, qu'on leur enlève le passeport. Et ça s'est passé en 75, quand le mouvement était chaud à Chausson. Beaucoup de gars, et j'en connais 3 ou 4, à qui on a retiré le passeport, ils sont restés au bled. Il fallait qu'ils passent caché, traverser pour retourner en France. Donc voilà, le social, c'était les syndicalistes, on était avec toutes les grèves, voilà, ça a apporté beaucoup l'ensemble. Et un Chibali m'a dit une fois, et on était installé au début dans l'ancien commissariat de Gennevilliers, comme ils ont construit la grande tour, le commissariat à côté, donc l'ancien commissariat, c'était un pavillon, un grand pavillon, et nous on faisait l'émission. Et le gars il m'a dit, eh ben alors, vous insultez le régime marocain, et vous attaquez le régime marocain d'un commissariat, vous n'avez pas peur. Donc voilà, la peur a commencé à s'en aller, et les gens ont commencé à parler de tout. Et surtout que, voilà, la thèse Mamarte, tout le monde en parle, ce qui se passe au Maroc. Voilà.
Et du coup, dans la radio, vous ne parliez que de ce qui se passait au Maroc ou vous faisiez.
Si, on invitait des Algériens, des Tunisiens, Français aussi. Non, non, il y avait chaque moment et chaque instant, chaque période, il y a des sujets. Et c'est vrai que.
Libérer la parole. Ouais.
Voilà, voilà.
Mais la radio n'était pas qu'une radio faite par les immigrés, c'était une radio. Non. Ah, il y avait toutes les nationalités. Et ils avaient fait le choix de laisser une place en fait, aux associations immigrées pour animer une partie des émissions. Quoi, en fait.
Et donc, du coup, vous aviez cette liberté de programmer ce que vous vouliez.
Bien sûr. Il n'y avait pas des. Personne, même le Parti communiste qui avait TSF à Nanterre, on leur faisait un peu concurrence parce que nous, on arrivait à avoir 600 appels par soir, ce qu'ils n'ont pas. 600 appels. Et il y avait Dallas. Et les gens, ils disaient, on ne regarde pas Dallas, on vous écoute.
Quelle concurrence.
Oui, là, ça nous a fait plaisir. Je ne regarde pas cette connerie de Cyril Dallas. Les écoutes de 8h jusqu'à minuit, ils sont là. Et les fêtes de Ramadan, c'était magnifique. Tous les soirs, on était là. Et on mangeait jusqu'à 5h du matin. On buvait des soirées.
Ah mais Radio Libre, il n'y en a plus.
Non. Bah, si. Fréquence Paris Pluriel.
Oui, il y a Fréquence Paris Pluriel, quelques-unes. Oui, il n'y en a plus beaucoup. Hein.
Radio Libertaire.
Oui, Libertaire. Mais enfin, il y a.
Ouais, ouais.
Quand tu penses la radio. C'est une des premières, celle des Mureaux. Ouais. Radio Val-de-Seine. Ouais. Complètement avalée par la mairie. Hein. Ouais. Mais c'était.
Ouais.
Elle était. C'était la première. Moi, j'y étais en clandestinité avant, hein. Et on était en clandestin, c'était super. Une fois que ça arrivait, mais là, ça fait des années qu'elle est avalée par la mairie.
Et là, on continue à défendre les ouvriers, comme la CGT, les syndicats, c'est un peu. Donc, on arrive à avoir quelques copains qui travaillent à la direction départementale du travail, qui nous aident à la TMF. Là, on vient de gagner un procès. Un Marocain qui a une boulangerie a fait travailler un clandestin un certain temps. On a essayé de mettre ça arrangé pour qu'il lui paye un peu. Il n'a pas voulu. Là, on était à Boubili. 100 000 euros. Et là, ils sont 100 000 euros.
Au prix d'homme.
Donc, il y a beaucoup de trucs comme ça. Ça devient. L'exploitation à court.
Beaucoup sur la situation administrative, comme les papiers.
Les papiers, ça aussi.
Par rapport au Chibani, parce qu'il y en a quand même un bon paquet de Chibani. En fait, les Chibani, c'est des vieux Marocains qui sont arrivés à 40, 50 ans en France, et puis, ils ont 65 ans, ils sont à la retraite. Ils se retrouvent avec une petite retraite où. Mais pour des fois, rien du tout.
La situation des Chibani sur la ville de Gennevilliers que je connais, il y a 10 foyers. Il y a à peu près 1200 à 1300 Chibani. La plupart, ils viennent nous voir. Nous, on fait jusqu'à 3000, 4000 passages par an à la TMF. On a une permanence lundi, mercredi, vendredi. Et on a l'inspecteur travaille le samedi. Et un samedi sur deux, on a un avocat bénévole. Donc tout ça, c'est les 1200, 1300 Chibani, beaucoup ont l'ASPA. L'ASPA, c'est l'allocation solidarité pour la personne âgée. C'est-à-dire, si tu ne touches pas 900, on te donne la différence. Tu as 600 euros de retraite, on te rajoute les 300 et quelques. Alors, les gens sont trouvés qu'ils ne peuvent pas rester tout le temps. Il y a la maman, il y a sa femme ou l'enfant qui est malade. Il retourne au bled pour passer quelque temps. Alors, il veut rester un mois, deux mois, mais la situation l'oblige à rester 6 mois et demi. Sept mois. Automatiquement, on lui envoie un courrier. On lui dit, depuis tel, vous allez nous rembourser 20 000, 30 000. Alors, les gars arrivent. Ils savent pas ce qu'on fait et ainsi de suite.
Parce que ce truc-là, nous, on l'a eu à Renault, on a encore pire, parce qu'en fait, pendant toutes les périodes, même les gens qui avaient 50 ans, quand Renault, dans les années 80, 90, commence à dire les départs avec eux, les fonds de les gens, ils partaient à 55 ans. Et et commence à changer leur date de naissance et rajouter des... Pour partir, quoi. Il y en a beaucoup.
Oui, mais ce n'est pas notre faute, c'est la faute de l'administration française.
Ouais, d'accord, mais l'impression...
Ils sont nés avant 56.
Ils n'ont pas vu
le truc. Ça en est avant 56, donc l'administration française n'a pas fait son travail. Il a pris les grandes villes, Rabat, Casa, Tanger, mais il a laissé le sud. Oui. Alors débrouillez-vous, d'accord. Vous ne faites pas partie du Maroc.
Oui. Du coup, il y en a, y a une bonne partie qui rajoute 5 ans, 10 ans et tout ça, ouais. Ils sont partis à la retraite, à 55 ans. Mais au fait, à 55 ans, ils ont bossé en 70, dans les années 70, ils avaient...
Petite retraite.
Parce que quand la retraite arrivait à 60 ans, ouais,
l'anecdote qu'on a vécue à Chausson, c'est qu'il y a le fils qui est parti avant le père, à la retraite. Alors comment ça s'est passé? Quand Mora est parti chercher les ouvriers, Mora, c'est le recruteur de Luffy, qui vient chercher...
Pour les mineurs.
Pour les mineurs. Et en même temps, il faisait venir aussi... Donc, il voit le père, il lui dit, t'as quel âge? Il lui dit, moi j'ai 40 ans. Ah non, t'es trop vieux. Le fils, t'as quel âge? Ah ben moi j'ai 17 ans. Ah, t'es trop jeune. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été à l'état civil. Lui, il baisse son âge, l'autre, il lève son âge. Et il a un an ou deux de plus que son père. Il vient travailler à Chausson, et le fils qui part avant le père.
C'est dingue, c'est...
Donc, c'est une question d'administration que... Mais maintenant, c'est fini, il n'y a plus ça. Hein.
Mais t'es sûr, vraiment, Mora, il embauchait des gens pour... je croyais que c'était seulement pour les mines.
Non, c'est
oui, pour les mines, mais ils descendaient de... Bah, la plupart de ceux qui sont dans l'automobile, ils sont descendus du mine. Hein.
Mmh. Ils tâtaient les gens pour voir s'il y avait vraiment des muscles.
La plupart qui travaillaient chez Citroën à la fonderie, c'est des anciens mineurs. Oui. Donc on est...
Nous aussi, on a une bonne partie à relouvrir.
Bah oui, Tron, c'est à peu près les mêmes usines en termes de recrutement.
Ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à aux années 70, il y avait une carte de travail par région, par département.
Oui, c'est ça.
Après, une c'était fois qu'on a décidé,
il y a
une seule carte de travail, et du coup, les gens peuvent
faire plusieurs partout. Mmh.
Et c'est bon, on est en lien avec plein, nous qui venons travailler. Tous les anciens mineurs
sont ils sont en train de mourir en petit feu, les Chibani. Mmh. Là, avec le Covid, on a enterré 52 personnes à Gennevilliers. On a créé un collectif dans chaque foyer deux personnes et on se parlait pendant tout le confinement au téléphone. Là. Il y a des personnes que moi j'ai suivies par téléphone qui sont sorties d'Anières pour partir à Poissy voir la famille et tombent malades. L'hôpital, après il l'emmène à Noisy-le-Grand, il meurt à Noisy-le-Grand, il nous a fallu un mois et demi pour le retrouver. Et beaucoup d'autres qui sont morts dans les foyers, sans le savoir, il fallait... Parce que le foyer c'était bien avant, parce qu'on avait une grande cuisine qui peut contenir 16 personnes, 8 là et 8 là, 8 chambres là, 8 là, 16 personnes, les réchauds une dizaine, donc on vivait en famille, on mangeait, on discutait. Ah, tel n'est pas là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a? Il est là. L'autre, il est malade, on va lui faire ses courses. Et il y avait cette entraide entre nous. Et maintenant, ils ont créé des petites chambres où il y a tout, un coin cuisine. Avec un petit...
Individuel, quoi.
Voilà, individuel. Il n'y a plus de collectif. Personne ne voit personne.
Il n'y a plus de collectif.
Donc, il y a des gens qui meurent, on ne sait même pas, deux jours, trois jours après, c'est hop, il faut courir. L'autre jour, j'ai appelé les pompiers, ils ont cassé la. Le premier étage de la fenêtre, parce qu'il y a quelqu'un, on ne sait même plus où il est. Lui, il est à l'hôpital. Qui c'est qu'il a emmené? Il est parti à l'hôpital, il est resté là-bas trois jours. Et les gars, ils ont dit, monsieur Tel, on ne le voit plus. Donc, après, il a fallu appeler à droite, à gauche, le son à contrat, la direction, pour savoir qu'il est à l'hôpital Bougeant.
Je voulais poser une question, une dernière question, c'est le livre là, est-ce qu'il y a, beaucoup d'anciens ouvriers qui l'ont eu, à qui vous avez fait des rencontres sur le livre?
Oui, oui. On essaie de que tout le monde le lise, mais voilà, je crois qu'au Maroc ça a été plus près que...
Bah, oui, parce qu'on a fait plus de rencontres.
Rencontres.
En fait, On a plutôt quand même toujours des retours vraiment très positifs. Là, on l'avait présenté aussi à la fête de Hello, où il y avait voilà, des anciens militants de l'automobile, ouais. Qui étaient quand même très, enfin, qui avaient beaucoup, beaucoup apprécié. Mais on va encore faire d'autres présentations. On en a une samedi. On va en faire. On n'a pas fait, en fait, en gros, on n'a pas fait les villes où ils habitent. C'est-à-dire qu'on a, on n'a pas fait à Saint-Ouen, on n'a pas fait encore à Gennevilliers, on n'a pas fait à Poissy. Bon, donc ça, on va le faire là dans les prochains mois, sans doute, on va envisager ça, quoi.
Moi, service de jeunesse de Gennevilliers, donc on va bientôt à l'espace Nelson Mandela faire une présentation. Et ce qui est bien, c'est quand on est en face des jeunes, c'est là que.
C'est parce que c'est un livre, d'histoire, donc c'est bien de transmettre l'histoire.
Voilà. Après, quand la fille, quand il l'a lu, la grande, elle était contente. Et maintenant, il est à la SNCF, à la Gare du Nord. Alors, il est venu me dire, papa, qu'est-ce que je fais? Est-ce que Sud ou la CGT? Il dit, tu choisis. Moi, je ne te dis rien du tout. Débrouille-toi, toi, tu connais le repère de tout. Tu sais comment ça se passe, à toi de choisir.
Après, ce qu'il y a.
Et alors, il est à la CGT.
Mais c'est vrai que, aussi, mais ça, je crois que, je pense que quand tu as présenté ton livre, c'était un peu pareil. C'est que, aussi, on fait se retrouver parfois des anciens militants qui ont vécu cette époque-là. Alors, des fois, il y en a qui rejouent un peu le match de l'époque sur qui avait tort, qui avait raison, les débats, mais ça, c'est bien, hein, c'est plutôt.
Oui, il y en a aussi, là, j'ai vu les débats avec la CFDT à Poissy, au secours.
C'est pas comme ça, quand même. Il y a des trucs qui se sont passés.
Oui, il y a des trucs qui se sont passés. Il y a eu des conflits intersyndicaux, quand même.
Bien sûr. Non, mais c'était pas du tout pour dire que je.
Ben, nous, ce qu'on avait, la bagarre qu'il y avait, c'est un peu avec la CGT. Concernant le régime marocain. La métallurgie nous disait que vous les Marocains, on ne peut pas choisir quelqu'un de gauche. Il faut quelqu'un qui qu'ils ont choisi, Al-Kharazi. Al-Kharazi n'est pas politisé. Voilà. Et il était à l'armée. Après, il est arrivé à Citroën, il travaillait Caris. Et la première chose qu'il a fait, moi j'étais. On est monté à une dizaine de la TMF pour voir comment ça se passe. 3000 personnes.
À Aulnay.
À Aulnay, oui. J'ai dit Aulnay.
Aulnay.
Et il prend le micro et dit, « Eh, Tamara, cette grève, c'est la grève de Hassan II. C'est la grève du Maroc. » Moi, j'ai couru, je lui ai arraché le micro. Je lui ai dit, « Non, cette grève, c'est une autre grève. C'est la grève des travailleurs. » Après, il me vient, il me dit, « tu vas voir ce qu'il veut. » Je veux voir quoi. Moi, je te dis que c'est la grève, c'est une autre grève. T'as pas à dire du roi. Et après, ils nous ont invités, je finis, à la Bourse du Travail, avec la photo de Hassan II au mur. Et là, on a gueulé, en disant, nous, on ne se réunit pas si vous enlevez pas la photo de Hassan II. Hassan II n'a rien à voir à faire ici. Et on a été invités à l'ambassade du Maroc, à Kharazi, qui s'assoit à côté de numéro 2 de l'ambassade, à Slam Jay. Parce que c'était le vieux ambassadeur, comment il s'appelait déjà, il est décédé. On était une cinquantaine de délégués. Ils nous ont dit, vous arrêtez pas de faire des grèves, ceci, là, qu'est-ce que vous voulez, les deux retours. Nous, on leur a dit, c'est ce qu'on voulait. On voulait une vie digne, des salaires dignes, des conditions ici et là-bas, c'est tout. Donc ça a abouti à rien, mais ça a démontré qu'eux, ils avaient peur de ces mouvements qui sont un peu partout en France.
Non, mais je voulais revenir sur l'histoire de la CGT que tu disais, c'est par rapport aux Marocains, c'est au Sahara et tout ça. Nous, ce problème-là, on ne l'avait pas avant. On avait le problème avec la CGT parce qu'on était d'extrême gauche. C'est tout, ça n'a rien à voir ni avec...
Donc, je parle entre nous, hein, Marocains. Avec la CGT, c'est autre chose.
Non, mais c'était mais ça, vous, je veux dire.
Diama, la question du rapport au roi et au Maroc, elle ne se posait pas chez vous, parmi les Marocains qui étaient dans les syndicats.
Mais la CGT, on n'a jamais eu ce problème-là avec eux. On l'a seulement parce qu'ils nous considéraient qu'on était des extrémistes, de la gauche, des extrêmes gauches. C'est ça, c'est ce conflit-là qu'on a souvent avec le PC et la CGT. C'est ça, Jacques.
Les dernières années, ils nous aimaient bien.
Ah oui, parce qu'ils étaient en perte de vitesse.
Non, mais moi, j'ai expliqué pourquoi l'AMF et la TMF. L'AMF, c'était Bambarka, qui l'a créé avec tous les exilés des années 61-62. Voilà. Après, ils sont partis en Libye, en Algérie, et ils ont laissé l'AMF quand même dirigé par Idr et la compagnie. Et l'Arabie et tout le... Donc voilà, quand les exilés sont arrivés, les étudiants, donc ils ont dit, bon, on va travailler avec l'AMF, mais l'AMF ne laisse pas prendre des responsabilités. Bon, ils ont dit, on va créer une autre association. Ils l'ont appelé ATMF. Et c'est parti comme ça. Bon. Voilà.
Oui, deux petites questions. C'est-à-dire que je pense, par exemple, que avant, on parlait de travailleurs immigrés, par exemple, l'association des travailleurs marocains en France. Donc, on parlait de travailleurs, qu'on parlait d'immigrés. Nous, on a associé ça à travailleurs, et j'en parle toujours. Ouais. Et aujourd'hui, on parle uniquement des gens qui arrivent, etc. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'appuie pas sur ce sens travailleur. Que, quand même, les immigrés, il n'y aurait plus d'immigrés en France, le bâtiment, c'est fini. Ce qui reste d'industrie est fini. Deliveroo, tout ça, c'est fini. Enfin, bon, je pense que c'est dommage qu'effectivement le terme travailleur immigré ait un peu disparu de notre langage à gauche. Deuxièmement, il y a le problème des intérimaires et des précaires. Parce que quand je suis arrivé à l'usine dans les années 73, tout le monde était embauché. Enfin, c'est le CDI.
Ouais.
Les dernières années, une bonne partie des travailleurs étaient des. Alors, il y avait les intérimaires, il y avait des contrats à durée déterminée, il y avait des auto-entrepreneurs. Et moi, j'étais des jeunes intérimaires. Il y en a un qui me disait, mais moi, ça fait 4 ans que je suis intérimaire. Je veux avoir un logement, je veux avoir un crédit. C'est mort, quoi. Ouais. Et en général, d'ailleurs, les Français étaient embauchés les dernières années. Parce que moi, je suis à la retraite. Et les immigrés, c'était plutôt des copains d'origine immigrée, puisque en fait, c'est des Français, mais enfants d'immigrés, qui, eux, étaient intérimaires. Donc il y a toujours cette discrimination, c'est-à-dire qu'en fait, il vaut mieux être français de souche, pour être embauché à Renault-Flin les dernières années, que travailleurs d'origine immigrée. Les Français, puisqu'ils étaient nés en France, c'était les enfants des immigrés.
Ah oui,
donc,
parce que
Fabrice leur a dit ça. C'est pas la peine qu'on ramène des immigrés, on en a ici.
Là, c'est ça, oui.
Mais en fait, des immigrés qui sont français.
Mais en fait, enfin, en tout cas, à Renault-Flin, c'est comme ça que ça se passait. Je suppose c'est pareil dans les autres usines automobiles quand elles existaient, c'est que sur les chaînes de montage, parce que c'était beaucoup sur les chaînes de montage, il y avait 80% d'immigrés sur les chaînes, et après, quand ils sont partis, les enfants d'immigrés, il y avait 80% d'enfants d'immigrés sur les chaînes, et qui étaient intérimaires. 80% d'intérimaires sur les chaînes de montage avant que l'usine s'arrête. Oui. C'est ça, c'est un recul social phénoménal quand même.
Ce que ça donnait, c'est que comme on promettait, les actions disaient, si vous faites du zèle, si vous venez le samedi, etc., on vous embauche. Donc pour les élus, c'était compliqué parce que les intérimaires, ils voulaient à tout prix être embauchés en CDI. Et donc ils faisaient du zèle et, par exemple, ils ne pouvaient pas participer aux grèves. Si syndiqué, c'était clandestinement, tout ça. Donc on retournait clandestinité qu'on n'avait pas connue depuis les années, je dirais 70, parce que c'est. On était clandestin jusqu'à Flin, jusqu'aux années 73-74. Quand il y a eu des lois qui ont permis qu'il y ait un peu plus d'exploité de l'emploi. Mais avant 73, par exemple, on peut être licencié du jour au lendemain, comme ça. Il y a des lois en 73, d'après 68, qui a permis d'avoir des lois qui ont été pressées. Et avec l'intérim, la précarité, on revient 50 ans en arrière, les entrepreneurs, on revient à 1830, c'est canu, quoi. C'est ça. Hein.
Mais il y a l'expérience de Saint-Ouen, c'est qu'après 82-84, licenciement, ils ont dit on va robotiser tout, mais ils n'ont pas pu robotiser parce que les presses, il y a 10 presses, comment robotiser, les bras, ça ne tombe pas, les techniciens pour réparer, on n'a pas, il faut former les jeunes, donc tout ça. Ils ont dit, bon, maintenant, on a licencié une centaine à Saint-Ouen, on va embaucher des jeunes maghrébins de nationalité française. Mais les jeunes, ils ne se laissent pas faire comme le père. Donc, ils sont restés un certain temps. Et les gamins, moi, je travaillais la nuit. Je voyais le gars qui arrivait à un côté. Il laisse un bout à son copain. Il s'en va
un juin.
Il arrive. Alors, ils étaient obligés d'amener des chiens. Avec des vigiles et des chiens. Pour surveiller les travailleurs. Et nous, on rigolait. On disait, mais vous avez des ouvriers qui étaient très très bien. Qui bossaient bien. Et le chef du personnel me disait toujours, la Seine, c'est un gars bien, la Seine. Toi, t'es un mauvais. Oui, j'ai dit oui, parce que lui, tu le payes mal. Et tu le fais exploiter, travailler samedi, travailler tout le temps. Et donc voilà.
Le problème des joueurs, nous aussi vous l'avez à Renault, le problème des joueurs, c'est que les ouvriers, les jeunes ouvriers qui travaillent sur les chefs, pour tenir le choc, il y a
ouais,
que ça.
Ouais.
C'est pas,
il y a des bagarres aussi. Il y a
oui,
des,
mais avant, il y a c'était l'alcool. Alors.
Qui se plaignaient.
C'était pas mieux l'alcool.
Ils ont même envoyé des chefs dans des églises pour se former. Comment parler avec les gens, comment... Oui, ils ont tout essayé. Moi, à Saint-Ouen, j'ai vu des trucs incroyables.
Alors, ce que je disais tout à l'heure, par rapport... Le travail était tellement aliénant que tu es obligé de prendre quelque chose pour...
Ben oui.
Alors, Fabien disait tout à l'heure, oui, les jeunes d'immigrés, les femmes, les enfants d'immigrés sont en chaîne. Mais de toute façon, des jeunes d'automobile, t'as rien d'autre, t'as pas le choix, il n'y a que ce boulot-là.
Et maintenant, il n'y a plus.
Il n'y a rien d'autre. Maintenant, il y a soit t'es ouvrier à travailler en chaîne, non, bah, il y a peu de cadres, peu d'agents de maîtrise, peu de professionnels. Le reste, c'est que le montage. Ça veut dire celui qui veut bosser, il bosse en chaîne. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre boulot.
Ben, la dernière, je viens de dire, c'est qu'on avait un chef d'atelier, un grand, il avait toujours un costume, tout le temps. Et lui, il vient le matin, quand il travaille la nuit, alors il compte les coups. Il y a combien de coups? 1 400 000 coups. Ah, c'est bien, il est content. Quand il arrive, il trouve 1 100 000. 1 200 000.
C'est quoi? Ah oui.
C'est des pièces, ça.
Hein, oui, c'est des...
Et il arrive... Et on était une trentaine comme ça, il regarde, ah là, combien il a fait celui-là, combien il a fait. Moi j'étais sur une petite presse à ce moment-là, je faisais 7000 pièces, mais j'ai jamais fait 7000, je fais 3500. Je dis, vous êtes gagnant avec 3500, moi je ne vous me demandais pas. Je regarde comme ça, il dit, monsieur Moubine, regardez le jeune homme là, on lui a demandé de faire 100%, il a fait 120%. Et vous, on vous demande depuis, vous êtes là ancien, et on vous demande, vous faites la moitié. Ben je dis, parce que monsieur, vous ne faites pas votre travail. Il me dit, comment ça? Devant tout le monde. Mais je lui dis, le petit jeune, il est intérimaire. Il cherche à se faire embaucher. Moi, je fais moi. Je cherche à ce que vous me licenciez. Alors faites votre travail.
Et il ne t'a pas licencié.
Non, je ne pouvais pas, j'étais protégé.
Bon, ouais. On peut terminer sur cette anecdote.
Ouais. Juste un mot sur la dureté du travail. Moi, une des choses qui m'a étonné un peu en faisant les entretiens, moi j'ai l'impression que le militantisme a aidé, alors, aussi parce que ça donne des heures de délégation, mais ça a aidé aussi à supporter le travail.
C'est sûr.
Les souvenirs qu'ils ont, eux, quand ils parlent du travail, même si je pense qu'ils ont un peu adouci et oublié peut-être des fois certaines situations, ça apparaît moins dur que ce qui sort des témoignages d'eux sur le moment, de l'époque, des archives, etc. Et finalement, des fois, on a l'impression, après quelques années de distance, bon, que les souvenirs sont apaisés, on va dire.
Bien mais, sûr, voilà, j'ai eu l'expérience avec ma fille. Ma fille qui a 37 ans, elle était petite, et quand j'arrive, je travaillais de 8. J'arrive l'après-midi, je dors, fatigué, le bruit et tout. Il dit, papa, viens jouer avec moi, papa. Je dis, maman, laisse-moi dormir un peu. Et quand il a eu son bac, je lui dis qu'il veut venir travailler. Ils ont accepté. Je l'ai fait travailler au mois de juillet, un mois. Comme ça, il aura un peu d'argent pour les vacances. Et le chef, il arrive, c'est un Marocain, il me dit, t'as l'âge, je m'en occupe. Je dis, l'occupe pas toi, laisse-la tranquille. Il se débrouille, s'il ne sait pas. Il arrive sur la presse au mois où je devrais faire cette mythe. Là, je me dis, papa, t'as travaillé là? Je dis, oui, j'ai travaillé là, mais je ne faisais pas cette mythe. Je te mens, moi, je faisais que t'as essayé. Il me dit, je vais essayer. Premier jour, il arrive à la maison, il pleure, il me dit, j'ai fait que 400, 500 pièces. Mais je dis, c'est pas grave, tu vas voir. Vers la fin du mois, tu vas faire 7000. Et le chef, il lui dit rien. Et Et après, il me dit, j'ai compris maintenant, papa, pourquoi tu dors après le boulot. Et à la fin du mois, il arrive, il me dit, j'ai fait 7000 pièces. Je dis, tu vois.
Deux fois plus que toi.
Ben oui, parce qu'on les met dans un truc où on les pousse au bout pour que, voilà, tu vois rien, tu vas pas fumer, tu vas pas, même aux toilettes, il faut que... C'était vraiment l'esclavage à... Et nous, on faisait le contraire de tout ce que... Il y a des trucs aussi, oui, toi tu connais un peu, tu peux réparer les petites réparations, tu fais ça. Je dis, moi je suis là pour taper les pièces, c'est tout. Le reste, appelez un électricien, un mécanicien. Moi, je ne prends pas la place des autres, parce que vous me payez un petit salaire, donc voilà. Et c'était une résistance qui a commencé après 82. Tout le monde disait que...
Alors, tu as travaillé aussi?
Ah non, jamais. Non. Moi, toujours Saint-Ouen. Ça, je me disais bien, parce qu'en fait... Mais je connais un peu Poissy, parce que...
Non, c'est l'autre Abdella qui a travaillé à Poissy.
Ouais, c'est Abdella. Les appels, le Vietnam, le Vietnam, des trucs comme ça, des noms très, 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 très durs. Le ferrage et autres, c'est plein dur. Parce que nous, à Renault, on n'a pas tous ces noms-là. Ils ne sont pas l'enfer, des machins comme ça. J'ai entendu des noms de ce style-là.
Oui, moi, j'ai fini quand même par... Opérer, reconnu par la MDPH. Toute la journée, les pièces, serrer les vis, le filmic. Donc, voilà. Il y a beaucoup de femmes, qui ont leur aussi... il y a beaucoup de
maladies
professionnelles. Des professionnels, beaucoup.
Moi, j'ai mon papa qui m'avait fait pareil, comme tu as fait à ta fille, qui a fait rentrer un mois chez Renault. Et donc, au départ, ça me paraissait facile, il y avait un pistolet, il fallait masticoter, etc. Au bout d'une heure, j'avais des ampoules tous les doigts, là, enfin tout au milieu. Et autour de moi, il y avait... Mais on ne m'en a pas donné, je n'ai pas pensé à demander. Et pareil, mon papa, il a dit, tu te débrouilles.
Et en fait, dur, les pères.
Ça les forge quand même.
Alors, c'est nos pères, mais autour de moi, j'avais la chance, parce que ça c'était mon père, de ne pas avoir mon père autour de moi. J'avais plein de monsieur qui étaient super sympas. Et une fois vu ça, donc du coup on m'a ramené des gants. Là où c'était extraordinaire, c'est quand même une grande solidarité. Moi j'étais la petite jeune fille, en plus, arrivée assez jeune, parce que 18 ans. Et alors, du coup, il y avait un roulement. Il y a quelqu'un qui prend des roulements pour faire des pauses. Mmh. Et alors, moi, j'étais super chouchoutée. On me faisait faire une pause un peu plus longue. Des fois, ils tournaient entre eux pour que je puisse après me reposer. Enfin, au bout de un mois, j'avais les doigts en feu. Et mon père, chapeau.
Ouais.
Chapeau à lui, chapeau à vous. Ça rend dingue. Et sans cette solidarité, je pense qu'on pète tout en plomb.
Et aussi des instants de malheur. Moi, le 1er avril 2000...
On ne va pas terminer sur un truc triste.
J'ai oublié. Un 1er avril, un jeune, très dynamique, qui travaille, il est sur le filmic. Il vient me voir, je lui dis, t'as été où? Il me dit, j'étais malade. Alors, c'est la nuit. Moi, j'étais sur une presse, je travaillais comme ça. Il me raconte, il m'en parle, on parle, pendant la pause, il me dit, moi je veux aller au Maroc, j'étais visité à Agadir, je voulais acheter une maison là-bas, construire ceci, cela. Et il part travailler, on arrive à 5h du matin, je vois les pompiers qui rentrent, la police, tout là, là, là. Je laisse ma machine, je cours vers le coin où il y a l'accident, je trouve... Il a été heurté par un filmic d'un copain. Il s'amusait entre eux. Il lui a coupé la tête. Mort sur le champ. Et ça, le chef ne voulait pas me laisser rentrer et voir. Je dis non, écarte-toi, laisse-moi voir. Quand j'ai vu, ça m'a traumatisé. Toute l'usine est restée trois jours sans travailler. Ça a été quelque chose.
C'est la fin des années 2000 à peu près, je crois.
Ouais.
Et quand même pas mal de morts au travail. Hein,
Alors les accidentés, n'en parlons pas. Les bras, les pieds. Cacher les gars quand ils ont un accident. On a cherché un Chibani je ne sais pas ce qu'il a eu à la... On l'a cherché partout avec Jean-Claude. Ils l'ont emmené dans un bureau, ils l'ont enfermé.
Ouais, ça c'est un truc dans... Enfin, à Aulnay en tout cas, c'était dans le témoignage où il disait que en fait, dès qu'il y avait un accident du travail, c'était... il faisait en sorte que ça ne soit jamais vu, jamais reconnu. Il les mettait dans un coin pendant un petit moment, etc. Et qu'effectivement, il ne fallait pas laisser la médecine du travail. L'usine d'Aulnay qui était, avait des chiffres de reconnaissance, enfin de l'accident du travail très bas.
Étonnamment, oui.
Voilà, sans doute parce que justement, il faisait un peu la chasse.
Ah oui.
C'était un des avantages qu'on avait à Renault qui a été nationalisé, heureusement. C'était pas tout à fait comme ça.
Ouais.
C'était quand même un peu mieux.
Moi, on m'a envoyé le contrôle. C'est un contrôle Citroën, pas sécurité sociale. Quand je tombe malade, je tombe pas mal 2 semaines par an. Quand on est vers une petite semaine et vers le mois de juin, une semaine. Ils m'ont envoyé toujours un contrôleur. J'étais au foyer. Alors j'ai dit aux copains, sûr et certain, la semaine-là, il va venir. Moi, je sors, je vais y aller quelque part. Mais s'il arrive, vous le retenez, vous le dites, vous ne partez pas tant qu'Abdallah n'est pas venu. Ils l'ont gardé. Ils l'ont gardé à l'après-midi. Il a voulu m'attaquer en justice en disant séquestration. Vous m'avez séquestré. Je n'étais pas là, moi.
On s'arrête là.
Ouais, on va s'arrêter là. Ouais. Ben, il y a les signatures et.
Ouais.
Je lui donc, il y a le livre de Vincent. Merci beaucoup.
Salut, t'as bien parlé, toi.
Les livres, ils sont là-bas, je crois, mais il y en a. Je crois qu'ils sont là-bas. Tu veux pour signer aussi.
Oui.
Ah, je vais.